9h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'être à l'écoute de RFI. Un nouveau journal tout de suite avec Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde.
Bonjour Amélie, bonjour à tous. Un système sanitaire anéanti dans le nord de la bande de Gaza par plus d'un an de conflit, constat du Comité international de la Croix-Rouge, alors que le dernier grand hôpital de la région a été ciblé par un raid israélien ce week-end. Des annonces sur le rétablissement de l'électricité et de l'eau, la reconstruction des logements, la santé, la sécurité, l'économie, les télécommunications. Le Premier ministre français a détaillé son plan pour reconstruire Mayotte après le passage du cyclone Chido. En attendant, un hôpital de campagne a été installé à Mamoudzou et permet de prendre en charge une grande partie des soins. Reportage dans ce journal. Et puis au Burkina Faso, l'Assemblée a adopté le projet de loi d'amnistie pour les militaires condamnés dans le cadre du coup d'État manqué en 2015. Les bombardements israéliens depuis plus d'un an, le froid et les hôpitaux complètement inopérants dans le nord de la bande de Gaza, selon le Comité international de la Croix-Rouge. Après un raid israélien lancé ce week-end de l'hôpital Kamal Adwan, le dernier grand hôpital encore opérationnel dans le nord de l'enclave palestinienne, est désormais hors service d'après l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui rend donc l'accès aux soins, Suzanne Marion, encore plus compliqué.
Un système sanitaire anéanti. Voilà comment le Comité international de la Croix-Rouge décrit la situation dans cette zone où vivent encore 75 000 Gazaouis. Des trois grands hôpitaux, il ne reste presque plus rien. Après le raid de l'armée israélienne, les 15 patients et 70 soignants de l'hôpital Kamal Adwan se sont réfugiés dans l'hôpital indonésien. Mais la situation y est tout autant alarmante. Ce n'est qu'un bâtiment avec quelques soignants et très peu de fournitures, explique à RFI une porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé, dont une équipe a pu s'y rendre dimanche. Les patients les plus critiques ont d'ailleurs été transférés vers un hôpital du centre de Gaza. Enfin, l'hôpital Al-Aouda, toujours dans le nord, est lui mis à rude épreuve car c'est le dernier dans ce secteur à fonctionner encore. Dans l'ensemble de la bande de Gaza, 85% des structures médicales ont été endommagées, selon Médecins du Monde. L'ONG dénonce des attaques répétées contre les structures et le personnel de santé, une violation totale du droit international et humanitaire. Aux dégâts matériels s'ajoute aussi le manque de médicaments, de fuel et de soignants.
Suzanne Marion, et en dehors de la bande de Gaza, l'armée israélienne affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen, d'où les rebelles houthis alliés du Hamas ont récemment lancé plusieurs attaques. Ce missile a, selon l'armée, été intercepté avant d'atteindre le territoire israélien. Rencontre avec les élus locaux, visite de la base logistique de l'aide envoyée à Mayotte après le passage du cyclone Chido. Le Premier ministre français termine son déplacement à La Réunion ce matin après avoir passé une journée à Mayotte, où il a détaillé son plan pour rebâtir l'archipel. Il promet notamment un retour de l'électricité dans tous les foyers d'ici la fin du mois de janvier, confirme l'interdiction de la reconstruction des bidonvilles, prévoit des aides financières pour les Mahorais et envisage aussi de lancer dans un délai de 3 mois un plan d'attractivité pour les médecins et les professions médicales en tension. En attendant, un hôpital de campagne a été installé. Il est fonctionnel depuis plusieurs jours alors que l'hôpital de Mamoudzou lui a fortement été endommagé. Le Premier ministre français a visité cette installation temporaire hier. Reportage de Lola Fourmi.
Devant les grandes tentes blanches qui font office de blocs et de salles de consultation, François Bayrou est revenu sur le bilan du cyclone Chido. Officiellement 39 morts, 4000 blessés, mais il maintient qu'il n'y a pas de milliers de morts.
Quelques dizaines ou quelques deux centaines d'êtres. C'est dans ces zones-là que nous disent les observateurs de terrain, on se trouve.
À l'extérieur, des dizaines de personnes attendent. L'hôpital de campagne a une capacité de 100 patients par jour, mais en reçoit plus de 300. Jama Joual se fait de l'ombre avec une branche. Il attend là depuis plus de 3 heures.
Le jour du Chido, j'y suis tombé. Après, je me suis coigné la main comme ça. Depuis ce jour-là, je me sens mal. Donc je viens pour voir si je ne suis pas cassé la main ou quoi. Voilà.
Daniela, une malgache qui vit ici depuis 3 ans, accompagne sa fille Hortensia, 7 ans, dont le bras est littéralement déformé par une fracture. Ce n'est pas la visite des officiels qui l'intéresse.
Ce que j'attends là, c'est le médecin. Le ministre, là, je ne sais plus quoi dire.
On est venu pour voir un spécialiste chirurgie. Mais on ne sait pas si on va le reprendre ou pas. Même si ce n'est pas acceptable, c'est ce que je vois, on n'a pas les choix.
Le CHU de Mayotte n'est fonctionnel qu'à 60%. Il faut d'urgence réparer le toit. Mais en attendant, l'hôpital de campagne n'a pas vocation à durer. Lola Fourmi, Mayotte, RFI.
En Corée du Sud, la justice a émis un mandat d'arrêt contre Yoon Suk-yeol, le président déchu qui a jusqu'à présent refusé de comparaître devant les enquêteurs qui veulent l'interroger sur sa tentative ratée d'imposer la loi martiale début décembre. Son avocat estime que ce mandat d'arrêt est illégal. Les enquêteurs ont aussi perquisitionné le siège du contre-espionnage militaire. Au Burkina Faso, les députés de l'Assemblée législative de transition ont adopté hier le projet de loi d'amnistie pour les militaires condamnés dans le cadre du coup d'État manqué de septembre 2015. Les soldats de l'ancien régiment de sécurité présidentielle avaient à l'époque arrêté le président de la transition, mais la population et une partie de l'armée s'étaient opposées au putsch. Une soixantaine de personnes avaient été jugées et condamnées à des peines de prison. Cette loi va donc permettre au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, d'accorder une amnistie à tous les militaires condamnés dans le cadre de cette affaire, sous certaines conditions, détaillées par Laurent Corot.
Cette loi sur la grâce amnistiante concerne uniquement les faits survenus les 15 et 16 septembre 2015, précise le ministre burkinabé de la Justice. Elle ne porte que sur la tentative de coup d'État perpétrée par l'ex-régiment de sécurité présidentielle, la garde prétorienne de l'ancien président Blaise Compaoré. Les personnes intéressées par cette grâce amnistiante devront adresser une demande au chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Les autorités examineront alors si les candidats remplissent notamment deux conditions, faire preuve d'engagement dans la lutte antiterroriste et ne pas constituer de danger pour les institutions, les biens et les personnes. Le texte a été adopté par 67 voix contre 3 abstentions. Selon le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, cette grâce amnistiante annulera, une fois accordée, toutes les poursuites ou condamnations contre l'intéressé, et celles-ci ne seront pas mentionnées dans sa carrière.
La précision de Laurent Corot. À 3 semaines de l'investiture de Donald Trump aux États-Unis, la justice civile confirme la condamnation du président élu pour agression sexuelle et pour diffamation. Donald Trump a été condamné à payer 5 millions de dollars de dommages et intérêts à Elizabeth Jean Carroll, une ancienne chroniqueuse de presse qui a révélé dans un livre avoir été victime, selon elle, d'un viol commis par Donald Trump en 1996. Le département américain du Trésor, victime d'une cyberattaque début décembre. C'est l'agence France-Presse qui l'indique, en citant un courrier adressé aux élus de la Chambre des représentants. Une attaque a priori sans risque pour des éléments classifiés, mais qui aurait été réalisée par un acteur soutenu financièrement par la Chine. Pékin dénonce des accusations infondées. Le président chinois, qui a par ailleurs adressé ses vœux à son homologue russe pour le nouvel an, Xi Jinping promet notamment de promouvoir la paix mondiale, selon les médias officiels chinois. Il est 8h07 en temps universel. Et où que vous soyez dans le monde, l'année 2024 prend donc fin. Année exceptionnelle pour le sport avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris qui ont permis de mettre en avant en France une discipline, le tennis de table, et deux des meilleurs joueurs mondiaux, Florence Valmy avec la fratrie Lebrun.
2024 restera, c'est certain, à jamais gravé dans les mémoires de Félix et Alexis Lebrun, avec en apogée évidemment les Jeux Olympiques de Paris. Les Montpelliérains, fils d'un ancien joueur de haut niveau, ont vécu une compétition de rêve pour leur première participation. Les deux frères s'adjugent le bronze en équipe avec Simon Gauzy, du bronze également en simple pour Félix, le cadet, très ému au micro de Christophe Diremzian.
C'est incroyable, c'est un rêve. Puis de le faire en France, dans les premiers Jeux Olympiques, il y avait toute ma famille, tous mes potes, tout le public qui me soutient depuis le début. C'est un rêve devenu réalité, c'est incroyable pour moi. Bien sûr que c'est un goût d'or, je pense que ma compète, elle ne peut pas être plus réussie. J'ai saisi toutes les occasions que je pouvais saisir et c'est ça qui rend la compète la plus belle possible.
Et cela faisait 22 ans que la France n'avait plus décroché de médaille dans la discipline au jeu. Les deux prodiges du ping auraient pu faire une pause et profiter un peu, mais non. Au mois d'octobre, Alexis, 21 ans, champion de France en titre, remporte les championnats d'Europe en Autriche, en simple, mais aussi en double avec son frère. Le même mois, Félix s'illustre au WTT Champions à Montpellier. Chez lui, il devient le premier Français à s'imposer dans cette compétition. Le cadet Lebrun se classe à 18 ans, numéro 1 au niveau national et numéro 4 mondial. Enfin, pour finir l'année en beauté, Alexis et Félix terminent à la première place mondiale en double après leur victoire au WTT Finals de Fukuoka au Japon, tournoi qui regroupe les 16 meilleurs joueurs du monde. La cerise sur le gâteau, 2024, l'année où les frères Lebrun ont définitivement changé de dimension.
Florence Valmet et eux vont passer le nouvel an sur leur voilier, les skippers du Vendée Globe. Après 50 jours de course, Charlie Dalin a repris la tête. Il est repassé devant Johan Richaume. Les deux Français qui sont poursuivis par un autre de leurs compatriotes, Sébastien Simon. 9h10 à Paris, la suite sur RFI, c'est Appel sur l'actualité avec Amélie Beaucourt.
Merci Clotilde, bonne journée à vous sur RFI.